Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Bonjour et bienvenue à Tête de Hockey. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de mon co-animateur
Raphaël Côté-Rioux.
Et on est ensemble un autre dimanche soir, il est 19h et on va vous parler bien évidemment de hockey. On a beaucoup de nouvelles à vous jaser cette semaine. Raphaël, c'est la pause du match des étoiles. As-tu regardé ça un peu?
Ouais, un petit peu quand même là. J'ai regardé un petit peu le concours d'habileté qu'on pourra parler un petit peu plus tard.
Oui.
Mais j'ai surtout porté attention au match là, de la fin de semaine hier là, au match des étoiles justement.
Ouais.
Mais
je pense qu'on veut commencer par un sujet. Je trouve qu'on est pas mal dans un beat là de Vancouver et définitivement les dieux de la ligue nous ont gâtés parce que Bo Horvat a encore fait parler de lui. On vous rappelle qu'il a été échangé. Je te ferai dire l'échange là, finalement pour être sûr de rien manquer.
Oui, Bo Horvat a été échangé là, la semaine dernière aux Islanders de New York contre un petit Québécois, Anthony Beauvillier. On a aussi l'espoir là, Atu Rati et un choix de première ronde protégé top 12. Donc, ce qui veut dire que si les Canucks, les Islanders finissent dans les 12 derniers de la Ligue, le choix sera un choix de l'année prochaine.
Voilà. Le choix est protégé. Connaissais-tu Atu Rati? Moi, ça me disait rien partout.
Oui, en fait, Atu Rati, c'est un Finlandais qui, au début de l'année dernière, ou même il y a deux ans, était vu comme le meilleur espoir pour le repêchage de 2022.
Okay, quand même.
C'était un espoir qui avait beaucoup de hype, là, si on veut. Puis finalement, s'est fait repêcher là, un petit peu plus tard dans le repêchage. Il n'est pas sorti là, dans les cinq premiers.
Parce qu'on en parlait la semaine dernière, Bo Horvat, ce qui était attendu, les Canucks de Vancouver avaient dit « Nous autres, on veut aller chercher quatre joueurs. » C'était peut-être un peu exagéré. Là, je me rends compte qu'avec Anthony Beauvillier, qui est quand même une pièce importante des Islanders, c'est pas le joueur de premier plan. On pourrait parler de Brock Nelson, on pourrait parler de Josh Bailey, on pourrait parler de plein d'autres joueurs des Islanders. Anthony Beauvillier faisait partie, je sais pas si t'es d'accord avec moi, du top 6,
je dirais top 6, plus deuxième ligne, plus top 9, disons. Là, okay. On parle de deuxième ligne, troisième ligne. Beauvillier qui a 20 points en 49 matchs.
C'est quoi la pièce qui est ressortie sur le choix de première ronde ou à tout Rati?
C'est probablement Rati, honnêtement. Okay. Quoique Beauvillier, c'est un beau depth piece, là, si on veut, un morceau de profondeur là, pour les Canucks. Mais à tout Rati, qui joue dans la Ligue américaine cette saison à 20 temps, avec de très bonnes statistiques. Là. Il y a eu 15 points en 27 matchs pour un joueur de 20 ans qui vient de l'Europe.
Il joue à quelle position?
C'est un joueur de centre.
Okay.
C'est ça. Atu Rati qui a été repêché dans la deuxième ronde, 52e au total au repêchage de 2021. Donc, c'était quand même un gros morceau.
Ouais.
Mais pour avoir dans la Ligue nationale, il faut donner. Donc,
ben oui.
C'est ça qui est ça.
On vous parle des Islanders de New York. On vous parle un peu de Vancouver. Vous écoutez Tête d'Hockey comme à tous les dimanches soirs. Et là, à Tête d'Hockey, nous, on aime ça mettre un peu de contexte, comprendre c'est quoi finalement les pièces qui se font bouger en arrière des rideaux finalement de la Ligue nationale. les directeurs généraux qui finalement des fois prévoient leur jeu en fonction de plusieurs on parle comme un peu aux échecs là, de prévoir plusieurs moves d'avance. Le Lula Morialo qui s'est fait un peu plaisir là, je te laisserai raconter cette histoire là parce que cet échange là ça sort pas de nulle part.
En fait c'est une petite pièce d'ironie si on veut là. En fait en 2013 Lula Morialo qui est aujourd'hui le directeur général des Islanders de New York était le directeur général des Devils du New Jersey.
Ouais.
Au repêchage en 2013, Lula Morialo échange le 9e choix au total du repêchage, donc le choix des Devils,
ouais.
C'est pas rien, pour le gardien de but des Canucks de Vancouver, Corey Schneider, qui
était quand même un bon gardien dans la ligue.
Qui séparait un petit peu là, la garde des buts à Vancouver avec Roberto Luongo à l'époque, mais un gardien de but qui était assez jeune, qui avait beaucoup de potentiel. C'est ça, donc Lula Morialo qui va chercher Corey Schneider contre le 9e choix au total. Les Canucks utilisent ce 9e choix au repêchage-là pour repêcher Bo Horvat, ce qui est quand même assez ironique. Puis, bien, la semaine dernière, Lula Morialo, qui est maintenant le directeur général des Islanders de New York, va chercher Bo Horvat aux Canucks. Et puis, la petite touche d'ironie là-dedans, c'est que le gardien de but, Corey Schneider, qui était avec les Devils, que Lula Morialo est allé chercher avec ce choix au repêchage-là, est maintenant aussi dans l'organisation des Islanders. Donc, tous les parties impliquées dans cette transaction-là d'il y a 10 ans, sont maintenant, là, avec les Islanders de New York. Donc, c'est assez cocasse.
Et voilà. On s'attendait, bien évidemment, que Bo Horvat allait se faire échanger parce que, avec un contrat qui finit, souvent, c'est une bonne pièce d'échange parce que, quand l'équipe reçoit le joueur, ils n'ont pas à le payer des sommes exorbitantes. Donc, Bo Horvat, qui devait signer, a décidé de signer avec les Islanders. C'est beaucoup d'argent.
Oui, l'annonce est tout fraîche sortie du four. Là. Ça a été annoncé là, en début d'après-midi aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Donc, on parle d'un contrat de 8 ans d'une valeur de 68 millions de dollars, donc 8,5 millions par année. C'est ça le marché pour des joueurs
c'est très cher payé. Suzuki a signé à peu près le même contrat.
Ouais, c'est très cher payé. Tu sais, Bo Horvat, c'est un centre de deuxième trio qui est pas nécessairement excellent défensivement. C'est un joueur qui, ça va être un gars qui va faire 60-65 points par saison.
Mais une très bonne saison, par contre.
Oui, a sa meilleure saison en carrière. Puis c'est probablement pour ça qu'il réussit d'aller chercher un aussi gros retour sur le marché des échanges, mais aussi pour son contrat. Donc, c'est cher payé, mais les Islanders, ils vont le tout pour le tout.
Ouais.
C'est pas une équipe qui a nécessairement un pool d'espoir très vaste et avec beaucoup de profondeur.
Ouais.
Donc, on se dit pourquoi pas y aller de l'avant. Aturati, qui était sans aucun doute là, le meilleur prospect, le meilleur espoir des Islanders,
qui quitte.
Bo Horvat, c'est un joueur de 27 ans. Qui devient pas plus jeune.
Comprendre un peu finalement le choix de Lula Morialo. Tu l'as expliqué qu'il avait fait des moves quand il était chez les Devils. Là, il va rechercher ses pièces finalement en étant directeur général des Islanders de New York. Mais quand on a parlé de l'échange potentiel dans le passé de Bo Horvat, on se disait Ça va être une équipe qui va faire les séries. On pensait peut-être aux Hurricanes de la Caroline, peut-être du côté de Boston, de Pittsburgh. Et là, on spéculait. Le choix est tombé. C'est les Islanders de New York qui, en ce moment, essayent là, d'aller chercher la dernière position pour les séries. Mais ça se peut qu'ils fassent pas les séries cette année.
Non, c'est un coup le tout pour le tout. Je suis très bien placé pour le dire. Lula Morialo, c'est pas vraiment un directeur général qui croit aux reconstructions.
Ouais.
Ça l'a jamais été ça.
On le rappelle parce que t'es un fier représentant des Devils.
Un fan des Devils.
Fais-moi un peu le portrait de Lula Morialo avec les Devils. C'était comment? Il voulait pas finalement faire une reconstruction?
Non, ça l'a jamais été dans les cartes. Lula Morialo a toujours préféré aller signer des Michael Ryder, des Michael Camilleri, de ce monde sur le marché des joueurs autonomes au lieu de faire une reconstruction complète. Puis, je veux dire, je suis capable de le comprendre d'une certaine façon. C'est pas un directeur général qui est très jeune, pas nécessairement beaucoup de temps à mettre pour faire une grosse reconstruction. Mais la réalité, c'est que ça fait pas du bien nécessairement là, pour une franchise de pas faire une reconstruction quand les choses vont mal.
Voilà.
Les Islanders de New York sont à 2 points du deuxième wild card dans la conférence de l'Est.
Ouais. Donc, ils sont finalement les équipes qui vont parce que c'est les trois premiers de chaque division.
Exact.
Et il y a des comme t'appelles les wild cards ou les jokers, je sais pas c'est quoi le titre exact,
ouais,
mais
Mais c'est ça. Ils sont à deux points. C'est vraiment un coup, le tout pour le tout. C'est vraiment une tentative extrême là, pour faire les séries. Ça va être à suivre. On va voir si la Moriello a pris une bonne décision.
Parce que, faut le dire, avec, entre autres, Ilya Sorokin, avec Adam Pelleck, avec, on parlait tantôt de...
Matthew Barzal, Noah Dawson.
Les Islanders, dans les dernières années, ont quand même été une équipe... pas si mal. Ils se sont rendus en finale de conférence, si je me rappelle bien, contre Tampa Bay, qui avait perdu, bien évidemment, parce que Tampa Bay gagne les Coupes Stanley à profusion dans les cinq dernières années. Les Islanders qui sont quand même bon cette année, c'est désastreux, on va se le dire.
Ouais,
là, on essaie de repartir la machine.
Ouais, et puis la réalité avec les Islanders, c'est que c'est pas une équipe qui se rajeunit. On parle de Brock Nelson au-dessus de 30 ans, Anders Lee au-dessus de 30 ans, Jean-Gabriel Pageau au-dessus de 30 ans, Zach Parise, Josh Bailey au-dessus de 30 ans. Tu sais, c'est une équipe qui commence à se faire vieille.
Ouais.
Dans ce temps-là, t'essaies de regarder pour une reconstruction qui s'en vient peut-être.
Ouais.
T'sais, vendre ces gars-là qui sont un peu plus vieux, mais qui peuvent encore performer.
Ouais.
Aller chercher des jeunes joueurs, du jeune talent pour peut-être repartir à zéro, mais les Islanders avec Lula Moriello, c'est pas ça la stratégie.
On va suivre ça et bien évidemment, on vous en reparlera à tête de hockey. On passe maintenant à une nouvelle qui me déplaît. C'est pas une surprise pour personne, étant un très grand fan des Canadiens de Montréal. J'ai été déçu cette semaine d'apprendre que Carey Price quittera la métropole du Québec pour déménager avec sa femme et là, je pense qu'il y a une fille ou deux filles.
Bonne question, honnêtement. Je pense que c'est une.
Il déménage avec sa famille à Kelowna. Donc ça veut dire qu'il va continuer d'être payé par l'Organisation des Canadiens de Montréal, mais ne sera pas dans la ville. Angela Price, dans ses stories Instagram, a dit « On va revenir, inquiétez-vous pas. » Mais de déménager comme ça, c'est un peu spécial, Raph, non?
Je veux dire, Carey Price, je pense que c'est pas un secret pour personne. Sa carrière est fort probablement terminée. À ce point-là, qu'il reste à Montréal ou non, moi personnellement, ça me fait pas, je vois pas vraiment la différence que ça peut amener. Je suis capable de comprendre, mais la réalité, c'est que je pense pas que Carey Price va être capable là, de retourner au jeu. Je pense que la carrière est terminée.
Tout le monde disait quand il a fait sa conférence de presse, ça prend un miracle.
Ouais.
Ça prend un miracle pour que son genou finalement soit frais et dispo pour la Ligue nationale. Il disait j'ai de la misère à descendre les marches avec ma fille dans mes bras. C'est assez désastreux comme blessure et on le sait que finalement la montée en série de 2021 a sûrement pas aidé parce que toute cette équipe là une fois que la finale a été scellée, ben c'est les antidouleurs qui font plus effet là, les blessures qui ressortent. Carey Price il était pas mal amoché, certains disent depuis 2015 quand un certain Chris Kreider a foncé dedans, ça a pas aidé pour son genou.
Non, en effet, puis la réalité c'est que donner des gros contrats comme ça à des gardiens de but, c'est un gamble.
On parlait des Islanders de New York et Eric DiPietro en est un bon exemple.
Oui, exactement. Puis on regarde les Panthers avec Sergei Bobrovsky il y a quelques années. Bobrovsky est pas mauvais, mais je pense pas qu'il vaut 10,5 millions par année.
C'est beaucoup.
Donc, tout est en tout. Malheureusement, la carrière de Carey Price probablement terminée, mais une carrière quand même assez, je dirais...
Étoffée,
illustrée avec les Canadiens. On parle de 712 matchs, ce qui le place au premier rang de l'histoire des Canadiens en termes de matchs joués. 361 victoires, ce qui le place dans cette catégorie-là aussi, au premier rang de l'histoire des Canadiens de Montréal. On se rappelle bien là, de sa saison extraordinaire en 2014-2015 où Price a remporté le trophée Hart pour le joueur le plus utile de la Ligue nationale au complet et aussi le trophée Vezina pour le meilleur gardien de but.
Voilà.
En série, Carey Price, on parle de 92 matchs, 43 victoires, 45 défaites. Donc, tout et en tout, c'est probablement un des meilleurs gardiens de but qui a gardé les buts pour les Canadiens. On sait qu'il y en a eu beaucoup. On parle de Ken Dryden, on parle de Patrick Roy.
Jean-Plante, faut pas l'oublier.
Jean-Plante. Carey Price est dans la discussion.
Ouais.
Surtout là, si on parle du Canadien de Montréal
moderne.
Entre guillemets, moderne. Ouais. Donc,
j'ai envie de dire que certains voudront que son chandail soit retiré. On verra si une fois que sa carrière sera officiellement terminée.
Moi, je pense que oui.
On pourrait voir ça là, parce que on en jasait entre autres avec la phase moderne là, des Canadiens où ça n'existe plus là, gagner la coupe 4 années de suite là, on n'est plus là-dedans. Donc les statistiques bien évidemment sont un peu moins extravagantes, si tu me permets l'expression. Et là, on va devoir peut-être changer les standards. Est-ce que Carey Price c'est un bon exemple? On verra. Mais on pourra reparler des chandails retirés à Montréal. On va passer à quelques nouvelles en rafale avant d'y aller en musique. Des signatures, des blessures, un peu de tout. On va commencer du côté de Vegas, comme j'aime les appeler, les chers Golden Knights, les Chevaliers Dorés. Mark Stone, définitivement, ça va pas bien pour lui. C'est pas la première fois qu'il se blesse dans les dernières années. Hein.
Non, Mark Stone a quand même beaucoup là, de problèmes là, au niveau des blessures, mais c'est un gros morceau que les Golden Knights de Vegas perdent. Là, leur capitaine, mis de côté indéfiniment après avoir subi une chirurgie pour guérir son dos. 17 buts, 21 passes et pour 38 points en 43 matchs cette saison pour les Golden Knights. Un bon joueur, un bon leader, bon défensivement. Un gros morceau de perdu là, pour les Golden Knights là, qui se battent présentement pour une place en série.
Ouais, Mark Stone qui était entre autres un des bons choix dans le repêchage d'expansion quand Vegas est arrivé, qui les a menés aussi en finale de la Coupe Stanley. C'était assez spectaculaire. Mark Stone, on se rappelle, Marc-André Fleury, Alex Pietrangelo, tous des joueurs qui étaient dominants dans leurs équipes, qui se sont réunis à Vegas pour finalement la 31e équipe de la Ligue nationale. Alors voilà pour Mark Stone. Ça va pas super bien à Vegas.
Non, pas super bien. Ils ont pas une mauvaise saison. Comme tu l'as mentionné, là, Mark Stone, qui est avec les Golden Knights là, depuis 2018-2019, s'est fait échanger à date limite des transactions par les Sénateurs parce que voulait pas rester avec les Sénateurs, donc là, a fait sa place là avec les Golden Knights. Mais,
ok, il a pas été acquis
non,
dans le repêchage.
Non, c'était un échange. Non, c'était un échange avec les Sénateurs. Mais oui, la course aux séries est là pour les Golden Knights en ce moment. Une autre, quelques prolongations de contrat annoncées cette semaine.
J'ai envie de dire back-to-back.
Oui, back-to-back, même
les
équipe.
Les Capitals qui font un... Est-ce qu'on appelle ça un retool, entre guillemets, pas une reconstruction, mais de refaire ses outils?
C'est des signatures de profondeur, là. Premièrement, Dylan Strome qui signe une prolongation de contrat d'une durée de 5 ans, de 25 millions, donc 5 millions annuellement pour Dylan Strome. Dylan Strome, on se rappelle bien, un choix de première ronde, troisième au total des Coyotes de l'Arizona en 2015 après notre fameux Connor McJesus, Connor McDavid, ouais. Et Jack Eichel qui joue maintenant pour les Golden Knights de Vegas. Dylan Strome qui a pas nécessairement atteint là,
les frères Strome, là, Dylan puis Ryan,
ouais, a pas nécessairement atteint les attentes qui étaient mises sur lui là en tant que troisième choix au total au repêchage, ouais. Mais présentement là joue comme centre là sur le premier trio des Capitals en compagnie d'Alex Ovechkin et de Connor Sheary. Il joue aussi sur la deuxième vague de l'avantage numérique pour les Capitals. A pas une mauvaise saison, 11 buts 25 passes, 36 points en 52 matchs, ouais. C'est pas mauvais, c'est...
Mais permets-moi de douter un peu de la première ligne des Capitals. Ovechkin, Strome, ouais. Sherry, Kuznetsov est où là-dedans? On a plus la première ligne qu'on avait, j'ai envie de dire.
Ben, c'est un alignement qui est quand même assez balancé. Là. Les Capitals, on regarde la première ligne. À la gauche, on a Alex Ovechkin, Dylan Strome au centre, Connor Sherry à droite. Deuxième ligne, on passe à Marcus Johansson à la gauche, Nicholas Backstrom au centre, TJ aussi à droite.
Quand même.
Troisième ligne, Sonny Milano, qu'on va parler dans quelques instants. Evgeny Kuznetsov au centre et Anthony Manta à droite.
OK, quand Kuznetsov est ton troisième centre, ça va
exactement.
Bien.
Exactement. Puis la quatrième ligne, on a Nicolas Aubé-Cubel, un Québécois à la gauche. Lars Eller, l'ancien du Canadien au centre et Garnett Hathaway à la droite. Donc, c'est un alignement qui est assez balancé.
Ouais.
Mais les Capitals qui sont aussi présentement là, dans la course aux séries, c'est le premier wild card avec 60 points. Donc, on garde un œil là-dessus. Mais oui, Dylan Strome qui reste... à Washington pour les 5 prochaines années. Sonny Milano aussi, que ouais. J'ai mentionné là, en mentionnant l'alignement des Capitals, qui a signé une extension de 3 ans d'une valeur de 5,7 millions, donc 1,9 millions par année pour Sonny Milano, qui joue présentement sur le troisième trio des Capitals avec Evgeny Kuznetsov et Anthony Manta. Sonny Milano qui a 8 buts, 14 passes, donc pour 22 points en 40 matchs avec les Capitals.
Et voilà, j'ai envie d'y aller en musique parce que on a fait les manchettes. On va continuer de vous parler de hockey à tête de hockey tout de suite après Sober de Childish Gambino. Sober parce que c'est le mois de février. Je sais pas s'il y en a qui ont décidé de prendre une petite pause d'alcool. Certains oui, d'autres non. On garde ça secret de notre côté et on vous souhaite un bon, on dit Drive February, donc février sec.
Yes.
Santé. And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. Sometimes, baby, just give it some time. Oh, honey, now, girl, we can solve them. If you'll just give me some time, I can open up your mind. If you let it shine, you can free your mind. Cause I know. De hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Félix, on est en compagnie de Raphaël Côté-Rioux. Raphaël, on a eu une grosse semaine de pause du match des étoiles.
Oui.
Il y a eu, comme on en a parlé dans les 15 premières minutes, entre autres, l'échange de Boervat qui a beaucoup fait jaser, Carey Price qui déménage, mais qui est toujours payé par le Canadien de Montréal. Et ben on a des statistiques à vous donner parce que ben on est le première émission du mois de février. On aime bien vous faire des top 3, les 3 étoiles de la semaine. Et là, on vous a finalement, excusez-moi, on vous a tout compilé les stats pour le mois de janvier.
Oui.
Donc, je te laisse parler de ça pendant que je prends une petite gorgée pour...
En fait, la Ligue nationale là, a annoncé ses 3 étoiles du mois de janvier cette semaine. Donc, les 3 joueurs...
Le troisième
qui ont...
étant, ouais, est quand même inattendu, ouais, un défenseur de Seattle.
Oui, on parle de Vince Dunn, le défenseur du Kraken de Seattle, là, qui a eu un excellent mois. On parle de 5 buts, 12 passes pour 17 points. En 15 matchs pour un défenseur, c'est vraiment un bon mois pour Vince Dunn. Puis c'est ça, un gros morceau là, pour un petit peu là, la remontée que le Kraken ont fait. Là, ils sont présentement premiers dans la division Pacifique, donc assez impressionnant pour le Kraken
ça
là, présentement.
Ça n'a pas de bon sens, finalement, ouais. Après une première année assez... atroce, on pourrait dire.
Ouais, non, ça l'a, je veux dire, tant mieux. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs. On parle de Maddie Beniers qui risque de remporter le Calder aussi pour la meilleure recrue dans la Ligue nationale. On espère que ça continue pour eux. Ils sont
on
pas dans la division.
Séries,
de... Oui, je suis assez convaincu. Puis ils sont pas dans la division, dans la conférence de nos équipes. Donc, on leur souhaite du succès.
Et voilà. Un qui est dans la conférence de nos équipes. On en a beaucoup parlé dans les 3 étoiles qu'on a compilées.
Oui.
Cher Pasta.
Yes, David Pasternak, l'ailier des Bruins de Boston, qui n'arrête jamais depuis quelques années. Tout simplement sensationnel, là, honnêtement. On parle de 13 buts, 8 passes, donc pour 21 points en 14 matchs. C'est excellent. Mais David Pasternak, on est habitué de le voir là, donc c'est plus vraiment une surprise. Un des joueurs élites de la Ligue nationale depuis quelques années.
Un
déjà.
Autre qui finalement confirme son statut en tant que joueur élite. Le cher Wayne Gretzky a même dit s'il y en a un qui peut compétitionner avec Connor McDavid, c'est ton joueur préféré.
Oui, on parle de Jack Hughes, le joueur de centre de 21 ans, américain des Devils, qui a fini son mois de janvier avec 13 buts, 10 passes pour 23 points en 13 parties.
Ouais.
C'est un pace assez incroyable, je dirais. Puis la réalité, c'est que si Jack Hughes continue comme ça, il va battre le record de points et de buts dans l'histoire des Devils en une seule saison. Donc, on garde l'œil là-dessus. Mais Jack Hughes, qui fait ces choses-là à 21 ans, ça l'augure bien pour la suite.
Définitivement. C'est une première saison où les Devils peuvent... finalement prétendre aux séries éliminatoires en toute confiance.
Absolument.
Finalement parce que Dougie Hamilton toujours présent, Jack Hughes toujours présent,
Jesper Bratt, Nico Hischier,
il y en a beaucoup devant le filet. De quoi ça a l'air de ces temps-ci? C'est celui qu'on surnomme le Vitek.
Vitek va très bien en ce moment. Vitek Vanecek, l'ancien gardien de but des Capitals de Washington que les Devils sont allés chercher au repêchage cette année. On fait un échange avec les Capitals pour ça leur a pas coûté cher, disons, là, un choix de troisième ronde, là, pour deuxième ronde, pardon, pour Vitek Vanecek. Je veux dire, c'est un échange que tu fais.
Mais là, parle-moi un peu de ce qui s'est passé devant le filet pour les Devils dans les dernières années, parce qu'il y a Colin Blackwood qui était un des premiers prétendants au poste de premier gardien de but pour un peu faire de la stabilité, là, créer une certaine constance. Je pense que la saison dernière, ils sont allés jusqu'à 6 gardiens de but en peu de temps. Là.
Oh, oui, exactement. C'est une saison assez frustrante là, pour mes Devils l'année dernière. Pardon. Les Devils qui ont eu des problèmes là, depuis que Martin Brodeur a pris sa retraite. Martin Brodeur
c'est
a été une présence
là.
Assez stable là, en avant du filet des Devils pour un nombre d'années.
Mais... on est allé chercher Vitek Vanecek, je l'ai devant moi,
oui.
Pour un pic, un choix de un 37e choix et un choix 70e. Donc, c'est des choix qui, en tout cas, pour le 37e, il y a de quoi à faire. 70e, on peut peut-être aller chercher quelque chose. On parle de fin deuxième ronde ou plutôt début de troisième ronde. C'est peut-être on peut faire un miracle en allant chercher un bon choix de troisième ronde. Mais,
puis quelque chose d'assez drôle aussi, c'est qu'en allant chercher Vitek Vanecek, les Devils ont aussi reçu un choix de deuxième ronde qui était un petit peu plus loin que le choix de deuxième ronde qu'eux ont envoyé aux Capitals. Mais avec ce choix-là, les Devils ont repêché un défenseur qui s'appelle Seamus Casey, qui est un défenseur qui joue pour l'Université du Michigan. dans la NCAA, si on veut, la meilleure ligue universitaire aux États-Unis, en compagnie d'un autre prospect des Devils, Luke Hughes, qu'on pourra discuter tout à l'heure.
Ah, parce
on a un beau segment pour vous.
Manquez
mais,
pas ça.
Un échange qui a vraiment payé fruit là pour les Devils, mais oui, ça n'a pas été facile dans les dernières années. Mackenzie Blackwood, qui a eu une bonne saison il y a 2 ans, a de la difficulté à rester en santé. Les Devils l'année passée qui ont utilisé 7 gardiens de but.
C'est jusqu'à 7, wow.
On parle de Jonathan Bernier, Nico Dawes qui joue présentement dans la Ligue américaine, Scott Wedgwood qui est rendu avec les Stars de Dallas, Mackenzie Blackwood, John Gillies qui joue dans la Ligue américaine, Andrew Hammond et Akira Schmid. Donc c'est dur d'avoir de la constance en avant du filet.
Andrew Hammond, il a pas fait un passage à Montréal, lui?
Oui, absolument. Les Devils sont allés le chercher à Montréal l'année passée. Ouais. Donc, 7 gardiens de but, c'est dur d'avoir de la stabilité en avant du filet. Mais cette saison, on touche du bois puis on veut pas vendre la peau de l'ours.
Voilà.
Mais pour l'instant, ça va super bien. Donc, on espère que ça continue comme ça.
Avec le Vitek, on s'est un peu perdu. On vous a parlé des 3 étoiles du mois de janvier. Donc, Vince Dunn, David Pastrnak et Jack Hughes. Après ça, on a ouvert des parenthèses pour parler finalement des Devils avec le Vitek. Je pense que pendant la pause publicitaire, on va vous partager. C'est un petit montage que la Ligue nationale a fait sur Vitek Vanacek, qui est très charismatique. Là, on va vous partager ça sur notre page Instagram. Si vous voulez ne rien manquer de ce qu'on vous partage, mais aussi nous écrire, parce qu'on veut savoir vos questions, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, plein de trucs. Allez nous suivre, c'est Tête au pluriel de hockey en un mot. Vous allez trouver notre page Instagram, abonnez-vous et écrivez-nous. On va vous répondre en direct, directement. On est encore là. On va vous parler des 3 étoiles rapidement de cette semaine avant d'y aller pour une pause publicitaire. Je te laisserai commencer avec un défenseur format, je pense qu'on peut le dire format jumbo. C'est celui qui fait peur parfois avec une barbe assez phénoménal.
Oui,
on parle
oui.
de Brett Burns.
On le compare souvent à Chewbacca, le fameux personnage de Star Wars. Mais il faut prendre en compte aussi là, cette semaine qu'il y avait seulement des matchs jusqu'à mercredi vu la pause là, du match des étoiles. Mais oui, on part avec Brent Burns, le défenseur des Hurricanes de la Caroline, anciennement défenseur des Sharks de San Jose et du Wild du Minnesota. On se souvient peut-être que Brent
Moi,
Burns...
Moi, je m'en souvenais pas.
Non, Brent Burns, qui était attaquant avec le Wild du Minnesota, qui a fait la transition vers la défense, oui. Donc, Brent Burns, là, récipiendaire du trophée Norris pour le meilleur défenseur de la Ligue nationale il y a quelques années, a accumulé 2 buts et 2 passes en 3 matchs pour les Hurricanes, qui sont en feu présentement avec une fiche de 9 victoires, 0 défaite et 1 défaite en prolongation à leurs 10 derniers matchs.
Ça va bien pour Sébastien Aho,
puis,
entre autres.
Oui, puis ça me fait pas nécessairement plaisir, parce que les Devils, on est juste en arrière des Hurricanes, donc on espère être capable de les rattraper, mais juste faire les séries, moi je serais très satisfait, donc on continue.
La deuxième étoile, c'est un vieux de la vieille, NZ Kopitar, ou NG Kopitar, je crois qu'il faut dire.
Oui, NZ Kopitar, le joueur de centre qu'on connaît bien avec les Kings de Los Angeles, qui a vraiment une bonne saison cette année. On se rappelle bien, NZ Kopitar, comme tu dis, un vieux de la vieille, a été repêché la même année que Carey Price en 2005. Carey Price était sorti 5e au total. Andrzej Kopitar était sorti 11e au total. Donc, Andrzej Kopitar qui a 1 but, 2 passes en 1 match cette semaine pour 3 points. Une bonne petite partie pour Andrzej.
Voilà. On rappelle que ces statistiques ont été cumulées cette semaine avec des matchs seulement du dimanche au mercredi
exactement.
En raison de la pause du match des étoiles. Donc, c'est pour ça qu'Andrzej Kopitar est 2e, même s'il n'a joué qu'un match avec 3 points. Le premier est un joueur qui a eu un pas pire contrat avec les Sénateurs d'Ottawa. Il est, à mon avis, le meilleur joueur des Sénateurs. Es-tu d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Un bon jeune joueur. Tim Stützle, l'Allemand, qui a été repêché 3e au total en 2020.
Ouais.
L'ailier gauche des Sénateurs d'Ottawa, qui a eu 2 buts, 2 passes en 1 match la semaine dernière, dans une victoire de 5-4 des Sénateurs contre le CH. Donc, ça fait le tour de nos 3 étoiles. On vous revient dimanche prochain avec nos 3 étoiles la semaine du 5 au 11 février.
On esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons le monde ou black, hey yo. Appelle-moi la lionne, c'est chaud.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédiger votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrer un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finaliser votre testament. Et 5. Donner vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
Vous êtes de retour à tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Comme à tous les dimanches de 19h à 20h, on vous parle de hockey, surtout de la Ligue nationale, mais parfois un peu des remparts. On vous parle de tout ce qui a trait au hockey. Et ce qui s'est passé en fin de semaine, c'était le match des étoiles. En fait, c'est le match des étoiles plus le concours d'habileté. Vendredi soir à 19h, c'était justement... L'extravagance, le côté un peu spectacle de la Ligue nationale, ils ont décidé de faire ça cette année en Floride, sous les palmiers, habillés, plusieurs étaient habillés en chemise, on va dire d'été, et c'était un week-end un peu particulier. On a eu, si tu le veux bien, je vais parler du concours d'habileté, tu pourras commenter
problème,
comme tu veux,
problème.
Et après ça, on pourra parler du tournoi de 3 contre 3 qui a un peu remplacé le match des étoiles.
Absolument.
On va commencer avec le concours d'habileté. Il y a eu plusieurs compétitions, certaines existaient déjà, d'autres ont été inventées pour cette année, des défis qui reviennent à chaque année, et avec raison, parce que c'est vraiment c'est le fun à regarder. Donc donc le tour le plus rapide, un concours de patins, il y a le tir le plus fort qui a été remporté un peu par une surprise, mais on va vous en parler un peu plus tard. Il y a le tir de précision, donc les 4 cibles que les joueurs devaient atteindre. Il y a eu ces concours-là, mais il y en a eu d'autres qui ont été ajoutés, entre autres de jouer au golf avec un bâton d'hockey et une rondelle. Ça a été assez particulier. C'était la seule épreuve dont le Canadien, le capitaine des Canadiens, Nick Suzuki, participait. Il y a eu un challenge assez divertissant qui consistait à essayer de frapper des planches de surf pour faire tomber finalement son adversaire dans une
piscine, ouais, comme on voit un petit peu là, dans les parcs d'attractions des fois là.
Voilà.
C'était un petit peu ça l'idée.
Moi je veux commencer en disant que j'ai été un peu déçu. J'ai été déçu, même si moi, le côté que j'apprécie beaucoup du hockey, c'est le fait que c'est un spectacle. Oui, c'est un sport, c'est des athlètes de haut niveau, c'est des athlètes qui ont une éthique de travail impeccable. Mais j'ai trouvé que le côté spectacle peut-être était un peu soufflé, alors qu'il y avait rien à l'intérieur de la balloune. Les joueurs qui semblaient vraiment blasés, là, on a un peu enlevé l'aspect compétitif, et on le comprend parce que c'est véritablement une pause là que ces joueurs-là prennent. Tout a commencé avec le concours de finalement celui qui patinait le plus vite, Cale Makar, qui a commencé, le défenseur qu'on a du plaisir à le qualifier comme étant le meilleur patineur de la Ligue nationale. Ben il s'est planté, puis c'est un peu décevant de voir, je suis pas en train de blâmer Cale Makar, je suis en train de blâmer la façon dont les joueurs perçoivent ces défis-là, perçoivent autant le concours d'habileté que le match des étoiles. On a, tu sais, les joueurs, je disais qu'ils avaient de l'air blasés, ils ont pas de l'air partie prenante du défi. C'est comme un peu fait à la va-vite, c'est un peu juste pour dire qu'on le fait. Finalement, il y a plein d'autres challenges qui ont valu la peine. Le concours d'échappée, entre autres, qui est plus ou moins rendu un concours de d'habileté, c'est plus rendu un concours de spectacle. Moi, l'échappée qui m'a quand même assez touché, c'est de voir Sidney Crosby avec Ovechkin et avec Ovi Jr., le fils de Ovechkin, de les voir les trois s'élancer devant Roberto Luongo et finalement Ovi Jr. qui a compté, le fils de Alex Ovechkin qui a 4 ans. Ben ça devait être assez spécial d'être sur la glace avec toutes ces étoiles de la Ligue nationale pour ce petit gars-là. Il y a d'autres enfants des joueurs qui étaient présents sur la glace, donc on comprend peut-être l'atmosphère un peu plus festive, un peu plus familiale que compétition, concours d'habileté. C'était un peu vu, c'est véritablement vu comme des vacances. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé.
La réalité, c'est que le match des étoiles, c'est beaucoup plus vu comme un événement là, pour les enfants, pour les familles, pour faire grandir le jeu un petit peu. Les joueurs qui jouent là, au match des étoiles, l'intention, c'est pas de se blesser, l'intention, c'est pas de jouer à 100%, l'intention, c'est d'avoir du plaisir.
Et même, il y en a qui refusent de participer à certains défis, comme le concours de patins, parce que, je vous l'ai dit, Kelmaker qui a trébuché, et ça fait peur peut-être à d'autres de se dire « Hey, moi, je veux pas me blesser durant le match des étoiles. »
Exact. Puis c'est très comprenable. Je veux dire, la majorité des joueurs de la Ligue nationale de hockey pendant le congé du match des étoiles vont dans le sud, vont profiter du beau temps, vont relaxer. Pourquoi pas prendre cette semaine-là pour faire ça au lieu d'aller jouer un match qui n'a pas nécessairement d'importance, tu sais. Donc, j'ai hâte de voir ce que la Ligue nationale va faire l'année prochaine. Bien honnêtement, les commentaires qu'ils ont reçus, c'est pas les meilleurs commentaires, mais à suivre. J'ai bien aimé les matchs en tant que tels. L'Atlantique a gagné. Matthew Tkachuk qui a gagné là, le joueur le plus utile du match des étoiles avec 7 points en 2 matchs. Puis on a aussi appris que le match des étoiles de l'année prochaine sera tenu à Toronto les 2 et 3 février 2024 et puis que l'invité spécial pour la musique Justin Bieber, fan fini des Maple Leafs, on le connaît bien.
Ben moi j'ai le goût de faire un petit survol là, de ceux qui ont gagné le concours d'habileté pour un de mes concours favoris, le concours de précision.
Oui.
Ça n'a pas été remporté par McDavid.
Non.
Juste petite précision. Habituellement on l'aurait vu au concours de celui qui patine le plus vite. A décidé cette année de dire ben regarde, ça fait 6-7 ans là que je le fais. Je vais changer de concours parce que c'est un joueur assez complet. Il a été le premier de la soirée à faire 4 cibles en 4 tirs, mais c'est finalement, on en parlant des Islanders tantôt, Brock Nelson,
oui.
Qui a été plus rapide que finalement McDavid. Le défi des échappés, qui est, comme je l'ai dit, un peu un concours d'extravagance.
Le spectacle,
Il y avait Jack Hughes qui a fait apparaître Jack Hughes.
Oui, l'année dernière.
Et cette année, j'en ai parlé, c'était Alexander Ovechkin et Sidney Crosby. Le patineur le plus rapide cette année, ça a été un peu surprenant, mais Andrei Svechnikov, l'attaquant des Hurricanes de la Caroline avec un temps de 13 secondes 699 centièmes. L'an passé, c'était Jordan Kyrou qui avait fait un peu moins, donc 13,55. Si je regarde rapidement là, dans les dernières années, c'est pas mal. Il y a Matthew Barzal en 2020 avec 13,175 et Dylan Larkin avec 13,172 en 2016. Ça patine vite, patine très très vite.
Le lancer le plus fort, lui.
Durant de nombreuses années, ça a été bien évidemment le géant Zdeno Chara. Après ça, c'était Shea Weber. Cette année, ce n'est pas un défenseur, c'est assez surprenant. Elias Pettersson.
Oui.
Elias Pettersson, c'est assez surprenant.
Quelle vitesse?
C'est d'une vitesse, ça sera pas long, j'ai ça, 103.2, qui est le même résultat que Victor Hedman en 2022.
Puis le meilleur résultat à Zdeno Chara, c'était lequel?
C'était 108.8, c'est très très fort.
On parle de 5 000 à l'heure de plus, on est loin des résultats à Zdeno Chara, qui était un assez gros garçon, comme on dit, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, avec la prochaine chanson...
On y va avec une chanson sur le nouvel album de Greg Beaudin. C'est Big Boy. On fait référence à, évidemment, Big Z, comme on l'appelle.
Oui.
C'est Zdeno Chara.
Pourquoi t'es toute seule ce soir, bé? J'aimerais ça qu'on se parle avec nos corps, bé. Même à juste parler, j'fais de l'or. Regarde-moi dans les yeux que j'puisse me voir, bé. Big boy, yeah, j'suis super size. Stand up guy, j'suis resté solide comme le fire. Yeah, ils parlent, yeah, ils feintent, mais sont restés en arrière. So j'garde la famille sous peut-être. Debout devant le miroir, j'suis comme moi, là. C'est qui ce gars-là? J'suis que son or, hein. Big boy, j'pense la question se pose pas. J'pourrais pull up si t'es about it. Couleur sweet comme un Skittle. Y'a une tease comme il faut. On
J'fuis les spleen comme des fiends, chasing dopamine. Pas attaché sur le highway qu'on speed. J'étais bold comme la couleur de ma peau. J'fais des jokes, j'fais des grosses choses avant que ce soit over. Remplis le compte, yeah, feel the bad. Mais si tu tombes, au moins j'aurai ton back. J'vais tout te donner pour qu'on make it back. Right, j'prends des rêves puis j'en fais des faces. Dis-moi pourquoi t'es toute seule ce soir, babe. J'aimerais ça qu'on se parle avec nos corps, babe. Même à juste te parler, j'fais de l'or. Regarde-moi dans les yeux que j'puisse me voir, babe. Big boy, yeah, j'suis super sale. Stand up, gars, j'suis resté solide comme le phare. Yeah, ils parlent, yeah, ils feintent, mais sont restés en arrière. So j'garde la famille sous peut-être.
Retour à tête de hockey, c'est le temps des 15 dernières minutes. Raphaël, on va vous parler d'un top 5, ou plutôt d'un top 6. T'as décidé d'inclure un petit dernier et ça m'a fait assez plaisir.
J'ai voulu te faire plaisir un petit peu.
Voilà. Veux-tu commencer par le dernier ou le premier choix?
On va commencer par le premier, je pense. On va débuter. Donc, exactement.
Ben, je pense qu'il faut dire, c'est un top 6 de quoi?
Un top 6 de quoi, exact, oui. Dans le fond, on vous a préparé aujourd'hui un top 6 des meilleurs espoirs défenseurs dans la Ligue nationale.
Ouais.
On parle souvent des jeunes joueurs, des espoirs dans la Ligue, les prospects, soit repêchés ou ceux qui s'en viennent. Donc, on trouvait ça pertinent. Là, c'est quelque chose qu'on veut parler aussi, comme Félix l'a mentionné, le futur du hockey,
ouais.
Les choix des équipes, etc. Donc, c'est sur un top 6 des meilleurs espoirs défenseurs dans la Ligue nationale.
Une fois que tu as eu à compiler ces noms-là, tu te basais sur quels critères? Est-ce que c'était « il joue dans la Ligue nationale » Est-ce que c'est il joue dans des ligues juniors? Comment est-ce que tu as évalué ça? Puis sur quels critères tu te basais?
C'est surtout le potentiel, bien honnêtement. Le talent général. Je suis quelqu'un dans les défenseurs qui met beaucoup d'emphase sur le patin, le jeu de transition. Donc, pour moi, c'est une préférence. Mais je me suis basé aussi sur des listes que je consulte de recruteurs, ouais. d'analystes que j'aime beaucoup, que ce soit Bob McKenzie, que ce soit Craig Button, Darren Dreger, etc. Donc, ça ressemble à ça.
Parce que là, je regarde rapidement, et on va vous les décrire, bien évidemment, mais c'est des joueurs qui ont été repêchés quand même très récemment.
Oui.
Il y a un joueur, si je me trompe pas, qui joue en ce moment dans la Ligue nationale. Sinon, il y en a peut-être un ou deux, là, mais sinon, c'est pas mal des espoirs.
Exact.
Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le numéro 1.
Super.
Ton préféré, encore une fois.
Mon préféré, le numéro 1, on parle de Luke Hughes, le défenseur repêché 4e au total en 2021. Luke Hughes, le frère de Jack Hughes,
oui.
Et de Quinn Hughes, qui joue pour les Canucks de Vancouver.
Ouais.
Quand on regarde Luke Hughes, on voit vraiment un patineur exceptionnel.
Pour toi, c'est de façon incontestée le meilleur défenseur pour les prochaines années à venir.
C'est le meilleur espoir. Reste à voir si ça va être le meilleur défenseur.
Okay.
Je pense. Honnêtement, j'essaie d'être le plus objectif possible quand je parle des espoirs parce que je pense que c'est important.
Ouais.
Mais Luke Hughes, j'ai vu souvent, puis je suis d'accord avec ça. Puis je dis pas qu'il va atteindre ce niveau-là, mais Luke Hughes, c'est l'espoir, le prospect qui est le plus Cale Makar depuis Cale Makar.
Ouais.
C'est vraiment un
défenseur. C'est quoi son talent?
C'est un défenseur offensif incroyable. Il patine excessivement bien.
Ouais.
Fait d'un côté à l'autre de la patinoire en, on dirait, peut-être 3-4 enjambées.
Ouais.
Il est vraiment difficile à rattraper. Contrôle excessivement bien la rondelle. Excellent en transition. Il y a du travail à faire défensivement, mais ça, c'est à être attendu pour des défenseurs qui sont plus offensifs puis qui sont encore jeunes.
Mais j'ai envie de dire, il y a pas une contradiction ici d'un défenseur qui base surtout son jeu sur l'offensif puis après ça qui doit travailler sur sa défensive?
Ben, la réalité, puis ça c'est quelque chose que on entend souvent des recruteurs, c'est que la défensive, le positionnement défensif, ça s'apprend plus facilement qu'un talent inné offensif.
Okay.
Apprendre la défense, apprendre le positionnement, c'est plus facile que d'apprendre le talent offensif.
Ouais.
Puis la réalité aussi, c'est que Luke Hughes joue à Michigan,
ouais,
dans la Ligue universitaire américaine. Puis le but de Michigan, c'est de gagner des matchs de hockey.
Ouais.
Puis Luke Hughes a, selon moi, les mains sont levées, on dit « Fais qu'est-ce que t'as à faire, utilise,
ouais,
tes forces. » Mais une fois que Luke Hughes va arriver dans le hockey professionnel,
mm-hmm,
on va essayer, je pense, d'instaurer une structure de base au moins au niveau de la défense.
Mm-hmm.
Luke Hughes n'est pas mauvais défensivement. Il y a du travail à faire.
Mm-hmm.
C'est un, comme je l'ai dit, un patineur exceptionnel qui se fait pas prendre beaucoup dans sa zone, qui est excellent en transition, parce qu'une fois qu'il prend la rondelle derrière son filet, il sort de la zone très facilement, que ce soit avec sa première passe ou avec son patin.
Mm.
Donc, comme je l'ai dit, excellente transition. Il se fait pas prendre dans le fond de sa zone fréquemment. Il est extrêmement actif et mobile. Il a vraiment du game-breaking ability qu'on appelle, vraiment être capable de prendre le match entre ses mains.
Ouais.
Puis de vraiment dire, ben, on perd pas cette partie-là. Moi, mm-hmm, je vois de l'avant.
Parce
donc,
que on l'a vu là ensemble, c'est fait saillant, finalement avec Michigan. C'est un,
oui,
joueur qui est tellement, qui a tellement d'aisance sur la glace, il mène le jeu là, défensivement.
Absolument.
Un peu comme chaque choix de notre top 6 des meilleurs défenseurs, des meilleurs espoirs défenseurs. À qui le comparerais-tu? Tu as parlé de Kyle McCarr, mais sinon...
Ouais, Kyle McCarr, ça serait un comparatif, mais je le vois vraiment comme un Scott Niedermeyer.
C'est pas rien, ça.
Non, c'est pas rien. Luke Hughes, il est pas petit, 6 pieds 290 livres.
Ouais.
Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Scott Niedermeyer dans ses meilleures années, mais c'est un défenseur un petit peu comme ça. Un défenseur plutôt offensif qui patinait,
ouais,
extrêmement bien, une très bonne vision du jeu, qui transitionne la rondelle d'une façon assez exceptionnelle. Donc, ça serait ça mes deux comparatifs. Puis Luke Hughes, là, cette année, avec Michigan dans la NCAA aux États-Unis, a 8 buts, 23 passes pour 31 points en 28 parties, donc plus qu'un point par match, là. Au niveau universitaire, ça promet pour la suite, puis la connexion Jack Hughes, Luke Hughes en prolongation 3 contre 3, ça, là,
ça va
risque,
être assez,
ça risque d'être
difficile
assez,
pour les...
d'être assez agréable. Donc beaucoup de potentiel pour Luke Hughes, c'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 1 de mon classement.
Vous l'aurez entendu en premier ici à Tête de Hockey, Luke Hughes est à surveiller pour les prochaines années. Un autre défenseur assez imposant,
mm-hmm,
je parle du grand Gaillard qui a été repêché 6e cette année,
oui,
par les Blue Jackets de Columbus, c'est David Richick. On en a parlé un peu alors qu'on a fait à notre tout premier épisode un retour sur le championnat mondial junior,
oui,
parce que David Richick, qui était finalement un des meilleurs joueurs de son équipe,
mm-hmm,
je te laisse le présenter et, un peu de la même façon que tu as présenté.
Absolument.
Luke,
comme tu l'as mentionné, David Richick, le défenseur tchèque qu'on a vu au tournoi mondial junior cette année, c'est un défenseur imposant et physique. Son coup de patin laisse à désirer, mais son boulet de canon de la pointe, là, c'est une force, bien honnêtement. Si vous regardez David Richick patiner. C'est un coup de patin assez saccadé. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important pour les défenseurs,
ouais,
modernes, d'être des bons patineurs, des patineurs rapides, mais aussi à l'aise avec leur mouvement.
C'est pour ça que j'ai hâte de voir tes comparatifs.
Oui,
là, parce
oui,
qu'il y
exact.
En a pas mal des défenseurs, des fois, qui ont de la misère, mais je te laisse décrire David
Richick. Son lancer de la pointe est tout simplement excellent. Ça va être un très bon joueur sur l'avantage numérique. Son jeu défensif est avancé, puis son jeu physique, comme je l'ai mentionné, est très imposant. Son IQ, si on veut, ou son intelligence de hockey est assez bonne, malgré que sa vision du jeu, c'est pas nécessairement sa force. On parle de défenseur de 6 pieds 3, 190 livres. Puis pour moi, David Richick compare très bien à un Chris Pronger Light ou un Marc-Édouard Vlasic. Donc, des défenseurs qui ont un talent offensif, mais qui ne sont pas,
ouais,
nécessairement reconnus pour leur offense,
mm-hmm,
qui sont très solides défensivement, puis qui peuvent être là, très intimidants.
J'allais le comparer, parce que là, tu parles d'un défenseur physique avec tout un tir, un slap shot assez impressionnant, un coup de patin un peu chambranlant. J'aurais eu le goût de dire Sheldon Surrey, mais Sheldon était beaucoup surtout connu pour son côté offensif.
Oui, moins défensif, donc ouais, mais c'est, pour moi, je vois vraiment beaucoup de Marc-Edouard Vlasic okay. dans son prime et Chris Pronger ouais. En Jiříček. Puis cette année, il joue avec le club école des Blue Jackets de Columbus, les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine. 5 buts, 16 passes, donc 21 points en 26 matchs. Un très bon début de saison pour un joueur qui joue dans une bonne équipe dans la Ligue américaine, qui a beaucoup de temps sur l'avantage numérique, donc à suivre pour David Jiříček.
On passe au prochain. Un autre défenseur qui a été repêché cette année, deuxième, c'est oui. un autre bon défenseur pour ton club, les oui. Devils du New Jersey, Simon Nemets.
Oui, Simon Nemets, le joueur slovaque qu'on a vu aussi, qui a eu une très bonne prestation au tournoi mondial junior avec 5 points en 5 parties pour la Slovaquie, qui n'avait pas nécessairement la meilleure équipe. Mais Simon Nemets, là, c'est un défenseur... c'est presque un défenseur parfait en termes de style de jeu. C'est un défenseur qui est extrêmement intelligent. Un excellent patineur, peut-être pas au niveau de Luke Hughes, mais c'est vraiment un excellent patineur. La vision du jeu incroyable, élite même. Il laisse pas sa place défensivement, mais sa force, c'est définitivement son offensive qui fait continuellement avancer le jeu. Comparé à Jiříček, parce que c'est beaucoup ça la discussion entre
Nemets
et Jiříček.
Ben oui, ils ont été repêchés la même année.
C'était les deux défenseurs principaux ouais. du repêchage en 2022. Simon Nemets qui est sorti deuxième au total avec les Devils, Jiříček sixième avec les Blue Jackets. Si on le compare là, à Jiříček, Nemets c'est un meilleur patineur, un meilleur passeur. Il a une meilleure tête de hockey aussi, mais il est moins physique, moins bon lancé. Mais Nemets, là, c'est vraiment un bon fabricant de jeu. Il est excellent en transition. Mm-hmm. Bref, c'est pas un défenseur qui a beaucoup de faiblesses. C'est un défenseur qui est well-rounded, comme on dit, là, qui a vraiment des bonnes aptitudes. Donc, ouais. Ça va être intéressant cette saison-là avec les Comets de Utica, le club école des Devils dans la Ligue américaine. 6 buts, 11 assists pour 17 points en 38 matchs. Puis pour Simon Nemets, les comparatifs, on pense un peu à Miro Heiskanen ou ouais. à John Klingberg, un bon défenseur, solide offensivement, qui laisse pas sa place défensivement, qui patine extrêmement bien, qui transitionne le jeu. Donc, un autre excellent là, espoir pour les Devils.
Voilà. Donc, je veux juste faire un retour sur le top 6 qu'on fait en ce moment. On va enchaîner aussi pour être sûr oui. d'avoir le temps. Donc, en première position, bien campé, Luke Hughes, le défenseur qui éventuellement va jouer pour les Devils du New Jersey. Il y a une rivalité à suivre dans les prochaines années. Deux défenseurs repêchés la même année, donc David Jiříček et Simon Nemets, qui, comme tu l'as dit, sont vraiment comparés l'un à l'autre.
Absolument.
Un joueur un peu plus offensif en Nemets et un joueur un peu plus, j'ai envie de dire, vieux jeu d'un défenseur assez imposant avec tout qu'un tir frappé, mais peut-être un patin un peu moins à l'aise.
Pour moi, ça dépend vraiment des préférences.
Ouais.
Il y a des gens qui vont préférer un défenseur un peu plus steady défensivement, qui frappe, qui a un gros lancer de la pointe, ouais. ou il y a des gens qui vont préférer un défenseur, pas nécessairement en finesse,
plus
mais un
polyvalent.
Défenseur qui patine très bien, qui ouais. fait la bonne première passe, qui fait avancer le jeu grâce à son intelligence là, sur la glace. Donc, moi, personnellement, je préfère la deuxième option. Je value vraiment le patin chez un défenseur, puis ouais. la capacité à faire avancer le jeu, les capacités de transition, mais c'est deux défenseurs là, qui vont être à suivre là, à 100%.
On va parler de deux joueurs un peu plus nichés. Il va falloir les faire assez rapidement.
Oui.
Là, on y va avec Simon Edvinsson.
Oui, Simon Edvinsson, le sixième choix au total en 2021 des Red Wings de Détroit. C'est un Suédois là, qu'on a vu aussi là, au tournoi junior dans les dernières ouais. années. C'est un bon patineur, un bon joueur défensif, bonne vision. Il a moins de flash offensif okay. que les autres défenseurs qu'on a mis en haut, mais il va être très efficace en transition là, dans la zone offensive. Il a un bon gabarit aussi. On parle de 6 pieds 6, 215 livres.
Ça, c'est l'équipe de Détroit, oui, les Red Wings,
oui.
ont tellement des joueurs imposant là, les noms m'échappent là, mais ils ont une ligne à l'offensive là,
ouais.
qui ont c'est tous des gars en haut de 6 pieds 2, donc Simon Edvinsson qui s'ajoute à cet alignement.
Absolument, c'est pas le défenseur le plus physique, mais il a un bon gabarit puis il patine bien pour son bon gabarit, donc
ouais.
ça l'augure bien pour les Red Wings. Mon comparatif pour Simon Edvinsson, c'est Oliver Ekman-Larsson, l'autre défenseur
ah oui.
suédois. C'est des défenseurs qui sont similaires, puis cette saison avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine, le club école des Red Wings, Simon Edvinsson avec 3 buts, 15 passes, donc 18 points en 35 matchs.
On va passer maintenant à Brent Clark, qu'on a vu au championnat
oui.
mondial junior avec le Canada. Il a été repêché par les Kings de Los Angeles au 8e rang en 2021. Comment est-ce que tu le compares aux autres joueurs?
Brent Clark, c'est un joueur qui a un hockey IQ exceptionnel. C'est un joueur qui a des lacunes défensives, qui est pas nécessairement très gros, mais qui a une intelligence sur la glace remarquable. Donc, c'est vraiment un joueur sur lequel garder l'œil dans les prochaines années. Mon comparatif pour Brent Clark, c'est Erik Karlsson. Puis cette année, avec les Colts de Barry dans la OHL, la Ligue de l'Ontario, on parle de 10 buts et 12 passes en 11 parties. Donc, 23 points en 11 parties pour un défenseur, c'est excellent.
Et là, ben, ce n'est pas un top 5, c'est un top 6. On va inclure le sixième parce que je le veux bien.
Oui.
J'y vais avec mon cher Caden Goulet des Canadiens de Montréal, repêché au 16e rang en 2020. C'est le seul qui est bien campé dans sa position dans la Ligue nationale.
Oui.
Un défenseur qui est recru, il faut le dire, mais qui joue déjà d'une façon assez responsable. Mm. On le compare à des vétérans, véritablement.
Oui, exact. Deux défenseurs qui ont joué avec l'équipe Canada Junior, comme je viens de dire.
Ouais.
Brent Clark, qui est repêché 8e overall en 2021 par les Kings, puis Caden Gooley, 16e au total par les Canadiens, comme tu l'as mentionné, en 2020. On le compare à Clayton Parayko, un joueur qui est assez solide partout, qui est pas nécessairement élite nulle part, mais ça va être un joueur extrêmement solide pour les Canadiens dans leur top 4. Un bon gabarit cette saison avec les Canadiens. 2 buts, 12 passes en 36 matchs. Un bon défenseur de 6 pieds et 2, 210 livres.
Moi, je le vois quand même là, dans le top 2. Là. Je pense qu'il va être très bon. Ben, on se dit à dimanche prochain. C'était Tête de hockey. Et ben, la pause du match des étoiles est terminée.
On
est de retour.
Oui.
Ça part pour la course des séries, la date limite des transactions. On a plein de choses à vous parler. On se donne rendez-vous dimanche, 7h, comme à l'habitude.
Ça va être chaud.
Ciao!
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie J'arrive!